Le journal présenté par Alexandra Dubouchereau.
Bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement réitère son appel au dialogue après l'acte 5 des gilets jaunes hier. Les ronds-points doivent être libérés et la sécurité de tous redevenir la règle, a tweeté Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, dans la soirée, alors que deux automobilistes ont été tués en tentant d'échapper au barrage des gilets jaunes. Mais la mobilisation semble s'essouffler d'elle-même. Seules 66 000 personnes ont pris part à ce cinquième samedi de contestation populaire. C'est deux fois moins que le week-end dernier. À Paris, il n'était que 3 000 contre 10 000 il y a 8 jours, chiffre en baisse un peu partout, sauf à Toulouse et à Bordeaux, où environ 4 500 personnes ont été recensées dans chacune de ces deux villes. Reportage France Bleu Gironde de Pierre-Marie Gros.
La pluie fine qui tombe sans s'arrêter ne freine pas la détermination des manifestants, plus nombreux qu'à Paris, ce qui réjouit Serge, venu de Parampuire.
Je pense que c'est une bonne chose quand même qu'il y ait des gens qui se motivent toujours, toujours autant de raisons d'ailleurs de manifester. Parce qu'en fait, les déclarations de M. Macron n'ont satisfait personne en définitive.
Défilé rue Sainte-Catherine au son de... Et de Macron rend le pognon, les commerçants tirent le rideau au passage du cortège. Retour, place de la Bourse, puis le défilé parvient jusqu'à la place Péberne. Là, la situation se tend, tirs de projectiles, bouteilles et feux d'artifice, contre canons à eau et gaz lacrymogène, c'est ce que craignait Teddy.
C'est inévitable. Je suis contre la violence, mais bon, après, s'il n'y a pas de violence, il ne se passera rien. Macron, il va rester sur ses positions, et donc, voilà.
Une heure d'échauffourée, puis encore un face-à-face entre les CRS et un millier de manifestants sous la tour Péberlan, sous les yeux de passants plutôt compréhensifs.
Moi, je regarde ce mouvement, il sympathie, oui. Il faut que ça bouge, hein. On ne peut plus rester comme ça.
Des feux de poubelle, cours Victor Hugo, la nuit tombée. Quelques incendies allumés sur les voies du tram cours Alsace-Lorraine. Mais les 600 gendarmes et policiers mobilisés maîtrisent la situation. Ce samedi de manifestation se termine plus calmement que le précédent.
Et à Bordeaux, la préfecture recense 16 blessés côté manifestants et 6 parmi les forces de l'ordre. 27 personnes ont été placées en garde à vue. À Paris, 168 personnes ont été interpellées hier. 47 gardes à vue étaient toujours en cours dans la soirée. Le père de Chérif Chekat, le suspect numéro 1 dans l'attentat de Strasbourg, affirme que son fils adhérait aux idées de l'État islamique. Il était interviewé par France 2 hier à la sortie de sa garde à vue. Vendredi, le ministre de l'Intérieur avait qualifié d'opportuniste la revendication de l'attaque par l'organisation terroriste. À Katowice, en Pologne, le coup de marteau a résonné vers 22h et il a été accueilli par une ovation debout des délégués de la COP24, la conférence climat. Avec une trentaine d'heures de retard sur le calendrier initial, ces derniers ont adopté une série de règles pour appliquer l'accord de Paris de 2015. Une centaine de pages comme un mode d'emploi avec une flexibilité accordée aux pays en développement, mais aussi des règles de transparence pour que les pays rendent compte des progrès accomplis et des promesses tenues. En revanche, aucun nouvel engagement n'a été pris par les États pour relever les objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Écoutez la déception de Jennifer Morgan, la directrice de Greenpeace International.
Les gouvernements ont échoué à envoyer un message clair qu'ils vont rehausser leurs ambitions et qu'ils vont faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce n'est pas raisonnable. C'est très choquant quand on sait ce que dit la science et quand on voit déjà les impacts du réchauffement climatique. Les représentants des petites îles sont, je pense, désespérés parce qu'ils savent que c'est une question de survie. Le fait qu'il n'y ait eu ici aucun leadership de l'Union européenne ou d'autres pays, c'est inconcevable. Ce sont des questions morales existentielles. Au lieu de cela, on dirait qu'ils sont toujours figés à écouter les intérêts des grandes entreprises au lieu d'écouter les petites îles.
Et autre son de cloche plus positif, Laurence Tubiana, la négociatrice en chef de l'accord de Paris et directrice de la Fondation pour le climat.
On a un processus clair pour 2020. Et en même temps, il y a un cadre clair de coopération internationale parce qu'on en a besoin. Et ce qu'il y a de mieux encore, c'est que depuis Paris, et ça c'est nouveau, depuis Paris, il y a beaucoup, beaucoup plus d'acteurs qui s'engagent à mettre en œuvre Paris, à s'orienter vers un engagement à être à émission net zéro en 2050. Et c'est des villes, et c'est des entreprises, et c'est des régions, et c'est évidemment des gouvernements. Et ça, c'est depuis Paris. Donc ça, c'est un progrès depuis Paris. Donc l'esprit de Paris, il est là. Les équilibres politiques sont là. C'est un moment difficile, évidemment, quand on a la première économie mondiale qui dit « je m'en vais », ça peut inspirer d'autres. Ça n'est pas le cas. Donc je trouve que c'est un vrai beau moment de vérité pour l'accord de Paris.
Les avis sont partagés donc après cette COP24 en Pologne. Laurence Tubiana et Jennifer Morgan étaient au micro de Véronique Rebérotte pour France Culture. L'Ukraine se dote d'une église indépendante de la tutelle religieuse de Moscou, création actée hier à Kiev lors d'un concile de réunification qualifié d'historique. Cette nouvelle église est un geste politique fort de la part du président ukrainien, Claude Bruyot.
Yepifania Doumienko, le nouveau métropolite de la nouvelle église orthodoxe ukrainienne unifiée, est âgé seulement de 39 ans. Il a été présenté à l'Assemblée des fidèles par le président ukrainien en personne, Petro Poroshenko. À quelques jours du début officiel de la campagne présidentielle, le numéro un du pays n'a pas de mots assez puissants pour qualifier le résultat de cette nouvelle étape qui creuse encore davantage le fossé entre l'Ukraine et la Russie. Cette fois sur le plan religieux, le point de non-retour semble également atteint. Avec la nomination de son chef, la nouvelle église orthodoxe ukrainienne tourne encore davantage le dos au patriarcat de Moscou. Sur le terrain, pourtant, il subsiste encore deux églises orthodoxes en Ukraine. À quelques unités près, la hiérarchie orthodoxe ukrainienne, restée fidèle à sa grande sœur russe, n'a pas pris part au concile, elle l'a même déclaré carrément illégale et semble bien décidée à vouloir continuer à administrer encore la majorité des paroisses du pays et dire également la messe en russe. De son côté, le patriarcat de Moscou a dénoncé des persécutions, alors que les autorités ukrainiennes assurent-elles, au contraire, que les fidèles orthodoxes du pays seront libres d'aller vers l'église de leur choix.
Claude Bruyot, correspondant de France Culture à Moscou. On se dirige vers la fin de la crise politique au Sri Lanka. Deux mois après son limogeage surprise, Ranil Wickremesinghe va reprendre son poste de Premier ministre aujourd'hui. Son successeur a été forcé à démissionner hier. La météo de ce dimanche matin, temps encore perturbé, un ciel couvert dans la moitié nord, quelques éclaircies sur la façade atlantique jusqu'à Auvergne-Rhône-Alpes et de la pluie sur le sud du pays, les minimales entre -3 et 15 degrés du Grand Est à la Corse.